Au début du XXIe siècle, le monde a perdu ses valeurs, relations, travail, origine. L'appartenance à la nation, religion, idéologie, langue, culture, identité sexuelle a disparu. L'utopie de la liberté de choisir, où l'on appartient, est l'une des promesses du nouveau monde. Pourtant, un sentiment d'appartenance réducteur est malmené pour des raisons politiques. Révolution au XXIe siècle ou absence totale d'hypothèse même de la révolution, telle est une des questions que nous poserons à Falk Richter en ce moment même à Paris pour un nouveau spectacle à partir de ses textes. De révolution, nous parlerons toujours de révolution scientifique avec la reprise du formidable La vie de Galilée de Bertolt Brecht. Jean-François Civadier et Nicolas Bouchaud sont nos invités. Et 68, c'était une révolution ou un chahut estudiantin? Telle est la question que pose le collectif L'Avantage du Doute, qui, en compagnie d'autres collectifs, fait sa révolution en redéfinissant le théâtre. C'est comme par hasard à la Bastille pendant 4 jours. Mais on commence, comme d'habitude, en musique et avec Frank Sinatra à I Love Paris. Me too, surtout quand le printemps revient.
Studio Théâtre, Laura Adler, sur France Inter.
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why, oh why do I love Paris? Because my love is here. Because my love is here. She's there. She's everywhere. But she's really here.
Des murs, des sphères et l'immobilité. Durant 2000 ans, l'humanité a cru que le soleil et tous les corps célestes tournaient autour d'elle. Le pape, les cardinaux, les princes, les savants, les capitaines, les marchands, les poissonnières et les écoliers, tous croyaient être immobiles dans cette sphère de cristal. Or maintenant, nous gagnons le large, Andrea, le grand large, car l'ancien temps est passé et voici un temps nouveau. Cela fait 100 ans que l'humanité semble attendre quelque chose. Les villes sont étroites, les têtes sont étroites, peste et superstition. Or, voici qu'on dit désormais, puisqu'il en est ainsi, qu'il n'en soit plus ainsi, car tout bouge. Ça me plaît, moi, de penser que tout a commencé avec les bateaux. De mémoire d'homme, ils n'avaient fait que ramper le long des côtes et soudain ils les ont délaissés pour s'en aller par toutes les mers. Sur notre vieux continent, une rumeur est née, il y aurait d'autres continents et depuis que nos bateaux s'y rendent, le bruit court par les continents hilares que le grand océan redouté est une flaque d'eau. Et voici qu'un grand désir est advenu d'explorer les causes de toutes choses. Pourquoi tombe la pierre qu'on laisse échapper? Et comment s'élève-t-elle quand on la jette en l'air? À Sienne, étant jeune, j'ai vu des gens du bâtiment changer, après une discussion de 5 minutes, une coutume millénaire de déplacer des blocs de granit grâce à un agencement nouveau et plus efficace des cordages. Là, en cet instant-là, je l'ai su, l'ancien temps est passé, voici un temps nouveau. Bientôt, l'humanité saura ce qu'il en est de sa demeure. Ce corps céleste où elle réside, ce qui est écrit dans les livres anciens ne lui suffit plus, car là où la croyance était installée depuis 1000 ans, là, maintenant, le doute s'installe.
Merci Nicolas Bouchaud. Vous venez de dire un court fragment de cette pièce de Brecht, La vie de Galilée, que Jean-François Civadier, vous reprenez à notre plus grand bonheur et à notre grand plaisir au théâtre Sylvia Montfort. Je me souvenais de certains fragments de cette pièce. Le spectacle vivant, par définition, c'est une mémoire qui est assez subjective. Je me souvenais pas de la force de ce texte. Je l'entends, je crois, comme de nombreux autres spectateurs, différemment aujourd'hui qu'au moment où vous l'aviez monté la première fois. Pourriez-vous nous rappeler dans quelles circonstances Brecht et avec quelles difficultés il a écrit cette pièce et pour quelles raisons?
Il est parti d'Allemagne au Danemark en 1933 après l'incendie du Reichstag. Il a écrit une première version donc en Finlande qui s'appelait La Terre tourne et une pièce dans laquelle il présentait Galilée comme un héros qui avait réussi à ruser contre le pouvoir pour pouvoir rester vivant et continuer à travailler. Voilà, c'était un message qui était envoyé comme ça à tous les savants, les intellectuels qui étaient restés en Allemagne et qui pouvaient tenter d'avoir des rapports plus ou moins ambigus, d'abdiquer un peu leur savoir comme ça entre les mains des chefs nazis. Et il est parti aux États-Unis, il était en 45, il a écrit une deuxième version qui s'appelait Galileo. Une version qu'il a plus ou moins coécrite avec Charlton, puisque c'est vraiment une version qui est née de la collaboration d'un grand acteur avec un écrivain. C'est ce qu'il y a de très beau dans la pièce. Et quand il écrivait, les bombes atomiques sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki, il a complètement, je pense, changé le message de sa pièce en accentuant la responsabilité, l'idée de la responsabilité du scientifique, parce qu'il y avait une déclaration de Oppenheimer qui avait dit que le savant n'était responsable que devant la science. Et tout à coup, avec l'aide de Charlton, qui était d'accord pour être très virulent envers Galilée, pour l'accuser très fortement d'avoir lâché le peuple, justement, ils ont fait une version où Galilée, tout d'un coup, est présenté comme un traître, un traître à la science. Et puis il a fait une troisième version quand il est rentré en Allemagne, et qui était, une espèce de mélange des versions, de la traduction de la version américaine, et puis un mélange de tous les fragments. Mais vous dites que vous ne vous rappeliez plus à quel point le texte était fort, et cette actualité, elle nous a vraiment sauté à la figure. Je crois qu'on a répété le spectacle. Elle est beaucoup plus actuelle, il me semble, et c'est pas très rassurant, qu'en 2002. Et je vous parle pas de la représentation qu'on a faite le jour des attentats de Charlie à Grenoble. Le soir, la salle était totalement suspendue. On avait l'impression que le texte venait d'être écrit. C'était incroyable.
Alors pourquoi? Pourquoi entend-on ce texte différemment aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé, puisque c'est exactement le même texte? Et que représente Galilée, Nicolas?
Galilée, c'est ce que disait Jean-François, Brecht il l'a voulu et il l'a écrit de manière complexe. C'est-à-dire qu'il y a l'élan positif de Galilée, qui est le scientifique qui découvre et qui fait part de ses découvertes. Et puis, selon Brecht, il y a le mauvais choix politique de Galilée dans la pièce qui, plutôt que d'aller du côté de la résistance, entre guillemets, de la bourgeoisie éclairée de l'époque, reste dans l'enceinte du pouvoir. ça pour Brecht, c'est l'erreur politique que fait Galilée. Pourquoi c'est plus actuel aujourd'hui encore? Bah parce qu'on le voit, c'est très simple, il y a une montée de depuis quelques années, il y a quand même une montée de la un retour du religieux qui est assez de tous les côtés hein, que ce soit l'islam ou que ce soit le mariage pour tous, de l'intégrisme religieux. Donc la pièce elle parle directement de ça, elle parle de du côté obscurantiste de la foi
et de l'intolérance.
Et de l'intolérance, absolument. Et donc c'est contre ça que c'est à ça que Galilée se heurte. Mais encore une fois, c'est pas aussi manichéen que ça, hein, puisque dans la pièce, les hauts cardinaux, c'est toujours pareil dans les religions, les plus hauts placés, les hauts cardinaux dans Galilée savent très bien que Galilée a raison sur ses théories scientifiques. Et le cardinal Bellarmin et Barberini le savent. Sauf que, bon, politiquement, on peut pas laisser passer ces idées-là, quoi. Voilà.
Alors, il y a peut-être aussi autre chose, c'est peut-être dû à la mise en scène et à l'interprétation, c'est que cette pièce nous est personnellement adressée, à nous, chacun d'entre nous, spectateurs. On vient d'entendre Nicolas dire un fragment de Galilée. Vous pratiquez délibérément un théâtre de tréteaux, un théâtre à message, un théâtre qui nous fait réfléchir au moment même où les paroles des comédiens sont énoncées. Pourquoi et comment avez-vous choisi ce parti pris, Jean-François Civadier ?
En écoutant le texte. On peut prendre le texte de Brecht et la notice est dans le texte, je dirais. Il y a une phrase, évidemment, qui est extraordinaire, je dirais, autour de laquelle on a construit tout le spectacle. C'est « Penser est l'un des plus grands divertissements de l'espèce humaine ». Alors évidemment, on est dans une salle de théâtre et on s'aperçoit que les théâtres sont des lieux où on peut penser ensemble avec plaisir pendant 2-3 heures. Alors effectivement, aujourd'hui où l'espace de la pensée est tellement réduit dans les médias ou je sais pas ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est encore pire. Tout à coup, entendre des phrases comme malheureux le pays qui a besoin de héros, voilà, et de voir une salle qui se tait, toute génération confondue, entendre cette phrase, c'est moi, ça me fait vraiment des frissons tous les soirs. Alors évidemment, c'est ce texte-là, hein, parce que ce qui est magnifique, c'est comment Brecht il s'adresse à tout le monde. Il fait un théâtre extrêmement populaire, je crois qu'il est très shakespearien dans sa démarche, mais seulement il n'oublie jamais de faire de son théâtre l'occasion de réveiller l'esprit critique du spectateur, d'empêcher le spectateur d'être immédiatement séduit et de lui montrer que bah, penser au théâtre, c'est un outil de joie extraordinaire. Alors nous, on est très vite tombé sur cette phrase parce que quand on a lu la pièce la première fois, on s'est dit, mon Dieu, mais c'est épouvantable. En fait, c'est que des gens qui parlent entre eux, qui font des démonstrations. Et on s'est dit, mais en fait, l'action de la pièce, c'est la pensée. Mais à condition que ce soit une pensée vertigineuse, une pensée qui les rende dingues. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que la pensée rentre dans les corps des comédiens et que quand on était étonné, par exemple, par quelque chose. Il y a de quoi être étonné quand on entend certaines idées, certains concepts qui sont énoncés dans la pièce. C'était tout le corps tout entier qui était traversé par cette pensée, quoi.
C'est aussi une pièce qui a énormément, qui recèle beaucoup d'énergie. C'est une pièce très solaire, la pièce de Brecht, hein. Donc, elle, en général, la pièce, elle vous rend l'énergie que vous lui donnez. Ce qui n'est pas le cas de toutes les pièces. Mais je crois qu'on s'étonne des fois au théâtre d'entendre de la pensée, mais je pense qu'on devrait en entendre beaucoup plus à chaque fois. C'est-à-dire que dans chaque pièce, c'est-à-dire que oui, forcément, le corps il est en action parce que c'est le corps qui pense. Quand on est sur un plateau de théâtre, on réfléchit plus, on peut réfléchir avant, on peut réfléchir après, mais au moment où on joue, c'est que de l'intuition. Et c'est le corps entier qui est mobilisé par la pensée, et on paye de sa personne, parce que quand... Réfléchir, c'est aussi voilà, c'est tout le corps qui est mis en action là-dedans. Donc c'est ça qui est rendu, je dirais presque naturellement sur le plateau.
Et cette nouvelle humanité, Jean-François Civadier, à laquelle nous sommes conviés pendant cette représentation, on a l'impression que Brecht, il l'a pressenti au moment des événements de la montée du nazisme, et qu'en même temps, il nous demande de nous réveiller. C'est ça aussi que produit l'effet de cette pièce sur nous, spectateurs.
Exactement. C'est pour ça aussi qu'on a...
Notre responsabilité.
Exactement. C'est pour ça qu'on a coupé la dernière scène qui pourrait ressembler à un happy end. C'est Andrea qui passe la frontière jusqu'en Hollande avec les discorsi de Galilée caché sous son manteau, etc., qui pourrait presque voilà, être une fin qu'on pourrait qualifier de heureuse. La dernière scène, l'avant-dernière scène, Brecht, il fait se confronter les deux versions, la version justement où Galilée, comme dans un procès stalinien, passe un quart d'heure à s'accuser, à dire au spectateur « Vous avez mal lu la pièce, je ne suis pas un héros, je suis une ordure. » À quoi le spectateur, c'est difficile d'entendre ça. Et justement, Andrea dit non, vous êtes un héros parce que pour moi, vous avez continué à vous avez réussi à travailler, vous avez été plus fort que le pouvoir, vous avez usé de la ruse. Voilà, ça vous a permis de ne pas mourir et de continuer à travailler. Et les deux versions se confrontent dans la même scène. Et le spectateur est obligé de choisir. Et je pense que la pièce se termine comme ça, dans une espèce d'état d'apnée, où il n'y a aucune résolution, et la résolution se passe dans la tête du spectateur.
Merci. Alors, merci Jean-François Civadier et Nicolas Bouchaud. Je rappelle que La vie de Galilée de Brecht, c'est une reprise au Sylvia Montfort à Paris, et c'est jusqu'au 21 juin. Courez-y, nous écoutons Clou, Éternel mépris.
À ton cœur est sauvage, il ne répond pas. Toujours comme un sage aux nouveaux appâts. Quand l'esprit amoureux dans des filets tombe, parfois c'est du sérieux, parfois boum, c'est une bombe. Sorti du bois, tu n'es pas sorti. Oh, ton corps est rebelle, il s'attache trop aux amours étincelles, à faux numéros, à l'affût d'une âme sœur et pas d'adolescente, pas d'enchérisseuse et pas d'inconstante. Du bois, tu n'es pas sorti. Oh, tu fais le difficile. Tu chipotes et tu veux des filles aux sourires faciles qui te prennent pour un dieu. Si ton cœur est sauvage et ne répond pas, sur un ton plus sage, adieu, adieu à toi.
Personne ne me regardait dans les yeux. Et tout le monde regardait ma place, pas moi. Mais le type en gris qui était assis là et parcourait les listes d'employés. Et tout le monde contrôlait ce que je faisais. Il se permettait parfois une blague sur mon costume qui ne va pas ou qui n'était pas assez cher ou qui n'avait pas la bonne couleur pour aller avec les bonnes chaussures. Et tout le monde pouvait faire des commentaires sur les tâches que j'avais mal accomplies ou que je m'étais contenté de bâcler parce que je n'étais pas assez bon au téléphone ou dans les réunions, parce que je ne réagissais pas assez vite, parce que je réfléchissais, pensais trop longtemps. Il y avait toujours dans le coin quelqu'un qui était employé uniquement pour vérifier que je travaillais efficacement moi aussi. Et s'il avait le sentiment que je ne travaillais pas assez efficacement, alors la restructuration s'emparait de moi. Je devenais une victime de la réduction, je n'existais plus. J'étais placé dans un autre bureau, dans une autre boîte de verre, dans une autre entreprise qui était aussi sur le point de se réduire et du coup avait encore besoin de spécialistes. Une équipe de gens qui s'infligeaient mutuellement le contrôle le plus pointilleux et qui travaillaient avec de fausses hiérarchies à mettre le maximum de gens à la rue, pour ensuite se tomber dessus et se restructurer mutuellement.
Paul Krichter, nous venons d'entendre un court extrait d'un texte de vous qui s'intitule « Nobody » et qui sera interprété dans le cadre du Festival de Printemps des Comédiens qui commence à Montpellier, par et dans la mise en scène de Cyril Test. Double actualité pour vous et merci d'être là entre l'Asie et vos nombreux voyages. Je rappelle que vous êtes écrivain, metteur en scène, scénographe, que vous êtes l'une des personnalités les plus importantes du théâtre européen, qu'en France, on vous a découvert grâce à Stanislas Nordet, c'était en 2008, je crois, avec My Secret Garden. Et ensuite, il y avait eu Das System. Vous avez monté de nombreux auteurs classiques, mais aussi de nombreux auteurs contemporains. Et là, vous menez à Chaillot une étrange entreprise, puisque vous avez écrit un texte dont j'ai lu quelques extraits tout au début de cette émission, un texte que vous allez à la fois chorégraphier et mettre en scène, fruit d'une collaboration avec Anouk Van Dyck, et réflexion sur la société contemporaine. Réflexion qui s'est alimentée à l'écriture d'écrivains contemporains, mais aussi de réflexions philosophiques sur l'appartenance de soi. On parlait de l'identité, qui sommes-nous, que vivons-nous depuis les attentats de Charlie. Comment voyez-vous le monde contemporain et est-ce que ce spectacle, The Belonging, est une réflexion philosophico-politique pour vous, Falk Richter?
Sehr viele Geschichten gesammelt von Menschen, die eigentlich alle nicht sozusagen dem Mainstream, mit der Idee des Mainstream-Lebens übereinstimmen.
Pour ce spectacle Complexity of Belonging, j'ai rassemblé l'histoire de nombreux personnages qui ne se situent pas dans le Mainstream.
Bei dem Stück dabei sind. Im Moment denke ich, deshalb finde ich die Auseinandersetzung mit Brecht im Moment auch sehr interessant.
C'est pourquoi je trouve aussi se confronter à Brecht aujourd'hui, c'est très intéressant.
Sehr, sehr starke politische Gruppierungen haben, die auf eine reduktionistische Sichtweise des Menschen zurückgehen, die
beaucoup de groupes politiques aujourd'hui ont une vision très réductrice de l'homme.
Zu verbieten, zu verhindern, zu unterbinden.
Ce qui bloque toute possibilité de changement.
Ich glaube, das ist unsere Aufgabe auch als Schriftsteller, als
Künstler.
Il est de
notre devoir en tant qu'écrivain et artiste d'attirer l'attention là-dessus, sur le fait que l'Europe glisse lentement vers la droite.
Und Sie haben am Anfang gefragt, ob wir im Moment eine revolutionäre Situation haben.
Demandiez ainsi si on peut assister à une situation révolutionnaire en Europe aujourd'hui.
Nur die Revolution kommt in diesem Fall von rechts.
Mais dans ce cas, la révolution vient de droite en ce moment.
Es ist ganz interessant, dass wir vor 30 Jahren in Deutschland noch eine linke Bewegung hatten.
Et alors que nous avions un mouvement de gauche en Allemagne il y a 30 ans, nous avons en ce moment des courants d'extrême droite très forts.
Die führenden Personen da drin,
dont les leaders,
cette
femme Béatrix von Storch qui siège déjà au Parlement européen et qui est la petite-fille du ministre des Finances d'Hitler.
Ce
sont donc les petits-fils des nazis, les petits-enfants des nazis qui sont là, qui reviennent.
Um die Politik ihrer Großväter wieder in die europäische Politik einzubringen.
Et essayer d'introduire à nouveau la politique de leurs grands-parents dans la politique européenne. Et en tant qu'écrivain allemand, qui connaît l'histoire allemande, je sais ce que ça veut dire pour nous, artistes et écrivains.
Donc,
qui n'ont pas envie de marcher derrière les tenants du pouvoir.
Ça peut
entraîner très vite des interdictions, et certaines formes de vie seront interdites. En France aussi, on assiste à ces glissements vers l'extrême droite.
Die momentan auch zusammenarbeitet mit einer Bewegung in Deutschland, die sich genauso
genannt hat. Par exemple, le mouvement La Manif pour tous travaille main dans la main avec un mouvement similaire en Allemagne.
Die hetzen jetzt nicht gegen Juden, sie hetzen gegen Homosexuelle. Aber
alors, c'était pas contre les Juifs, c'était contre les Homosexuels, mais il y a beaucoup de signes troublants dans cette période dans laquelle nous devons rester très prudents.
Mein Stück setzt sich auch damit auseinander mit der Angst, die viele Menschen haben vor der Komplexität unseres Lebens.
De cette complexité,
aber
de ces problèmes-là.
Davon, ist es auch einfach ein Stück Theater, es ist
Mais
Tanz,
c'est aussi tout simplement un moment de théâtre, de danse, c'est aussi très divertissant et très beau. Il y a aussi là-dedans un discours sociologique qui se confronte avec ces questions-là, avec toutes ces tensions qui traversent nos sociétés. D'où vient le fait que tant de gens soient traversés d'angoisse?
Als Menschen, die heute leben, imstande sind zu verstehen und auch zu tolerieren.
Alors qu'on devrait être en mesure de comprendre et de tolérer toutes ces contradictions.
Dans votre texte pour The Complexity of Belonging, vous cartographiez en quelque sorte la dissolution de l'individualité. Nous ne sommes plus des individus, nous sommes des masses. Nous ne savons plus à quoi nous appartenons et nous n'avons presque plus de conscience. Est-ce que vous pensez que dans votre réflexion, cette absence d'individualité entretient notre désir de domination, en quelque sorte, et notre absence de possibilité d'envisager même une révolution?
Ich glaube, dass tatsächlich immer noch die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008 unterschätzt werden. Die sind unglaublich groß.
Je crois qu'on sous-estime les conséquences de la crise financière de 2008.
Sie haben eigentlich das ganze
Elle a déstabilisé l'Europe et déstabilisé toute l'amitié et la solidarité entre les nations européennes.
Dinge gibt, die viel größer sind als das, was sie verstehen.
Les gens sont confrontés à des événements beaucoup plus grands qu'eux.
Eine Simplizität. Das heißt, wenn wir schon nicht unser Wirtschaftssystem oder unser Finanzsystem verstehen, dann wollen wir am liebsten.
Et nous avons besoin de simplicité, même si on ne comprend pas l'ensemble de notre système financier, on a besoin. Voilà, on a besoin de savoir que vivre de cette façon, c'est faux, et vivre ainsi, c'est bien.
Dass es noch Männer und Frauen gibt.
On a besoin de savoir qu'il y a encore des hommes d'un côté et des femmes de l'autre, qui doivent se marier et avoir des enfants, enfin, ce besoin de certitude.
Ich glaube, dass sich eigentlich unsere Gesellschaft im Moment spaltet. Ich habe eher das Gefühl, dass es Leute gibt, die immer wacher Fraktur werden, immer dans notre société, werden, die auch begreifen, dass wir in einer komplexen Welt leben.
Des gens qui s'ouvrent de plus en plus, qui comprennent qu'on vit dans un monde complexe et pour lequel il faut trouver des solutions.
Und es gibt Leute, die sich zurückentwickeln.
De l'autre côté, des gens au contraire qui regressent et qui voudraient revenir au début du XXe siècle.
Die wieder einen Nationalstolz haben wollen,
qui ont besoin d'une fierté nationale, qui ont peur de la perte de la nation, qui ont besoin de décisions claires et fortes, l'homme fort, ils ont besoin de savoir comment un homme doit se comporter vis-à-vis d'une femme. Il y a des mouvements assez terrifiants en Allemagne en ce moment, des mouvements féministes en particulier qui disent que le nouveau féminisme, c'est que la femme peut à nouveau être fière d'être mère, etc., etc. C'est totalement absurde, mais ils ont de plus en plus de succès, ces mouvements-là.
Als Künstler mache ich das eigentlich so in meinem Stück, dass ich genau das Gegenteil mache. Ich zeige
moi, j'essaie de faire le contraire dans mes pièces,
Menschen,
en tant qu'artiste.
Die ein komplexes Leben führen, die eine komplexe
je montre des gens qui
haben.
Vivent des vies complexes, qui ont des biographies ja, complexes.
Zum Beispiel ein Tänzer, der ich habe das Stück ja in Australien geschrieben und auch produziert.
Dans une pièce que j'ai montée en Australie, il y a un danseur, par exemple,
Aboriginal Hintergrund,
qui a un passé aborigène. Sa mère est anglaise.
Die dann in einer Biographie zusammenkommen.
Il s'agit donc de deux cultures différentes au sein d'une même biographie.
Seine Eltern haben sich getrennt.
Alors, ses parents se sont séparés.
Mutter hat einen anderen Engländer geheiratet.
Sa mère a épousé un autre Anglais.
Extremen Christen groß geworden, et wurde er exorziert.
A grandi dans un milieu catholique assez intégriste et lorsqu'elle a compris qu'il était homosexuel, ça a fait un drame.
Ein aufregendes Leben. Er lebt
mais il a
mit seinem
malgré tout une vie
partner,
très excitante. Il vit avec son partenaire à Tel Aviv.
Eine sehr freie Gesellschaft ist in Tel Aviv.
Dans un milieu très libéral.
Ich finde es letztlich interessant zu sehen,
je
was es auch an Reichtum bedeutet,
voir ce que ça signifie comme
richesse
Dinge pour des gens.
Machen. Das heißt, die Reduktion ist nicht immer das spannende Leben, das interessante Leben auch für uns als Künstler.
C'est pas la réduction qui fait l'intérêt de la vie, au contraire.
Ist natürlich immer das,
le déploiement
was eigentlich das Gegenteil ist von dem, was sich Front National für uns alle wünscht. Also, verstehen Sie, also es ist das Gegenteil von dem.
Tout l'inverse de ce que les mouvements nationalistes souhaitent qu'on fasse.
Und was die Gesellschaft insgesamt auch reicher macht.
Et que toutes ces diversités font la richesse de la société, au contraire.
Dass wir auch die Vielfalt und das Komplexe umarmen können. Wir können das akzeptieren.
Devrions pouvoir embrasser au sens large toutes ces complexités, toute cette diversité, parce que ça enrichit notre société. Voilà. Cela pourrait nous débarrasser de la peur de que l'étranger soit une menace pour nous.
Falk Richter, dans toutes vos pièces et encore dans celle-ci, The Complexity of Belonging, vous cartographiez la domination dans le monde du travail, dans la domination du néolibéralisme qui s'abat dans le monde entier, la domination sexuelle et aussi la domination de la conscience de soi par finalement notre pratique addictive aux réseaux sociaux, la nécessité d'être inscrit sur Facebook, de Twitter, etc. Quelles sont, selon vous, les dominations qui nous guettent le plus dramatiquement pour éteindre notre conscience de soi?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns letztlich nicht unterwerfen lassen von all diesen Dingen.
L'essentiel, c'est de ne pas se laisser soumettre, justement, par tout ça.
Aber es ist tatsächlich, das beobachte ich auch, ich bin auch überrascht, immer wieder zu sehen, wie sehr Leute mittlerweile schon abhängig sind oder sich unterwerfen lassen.
Je suis surpris de voir à quel point les gens sont dépendants et se laissent soumettre, justement, par tous les objets électroniques, d'être le fait d'être disponible sans arrêt, toujours joignable, toujours au mieux de leur performance, etc., etc.
Ich sehe allerdings auch eine Bewusstseinsänderung bei vielen Menschen.
Mais je vois qu'il y a aussi une évolution dans les consciences.
Was macht das Leben eigentlich substanziell lebenswert?
Et les gens commencent à nouveau à se demander qu'est-ce qui fait la substance de la vie, où sont les contenus, où sont les valeurs?
Die Verflüssigung meiner Individualität anarbeiten. Wie kann ich eigentlich sozusagen mein Leben?
Comment je puisse résister à la liquéfaction de ma personnalité?
Beau programme, en tout cas, il faut aller vous voir, et je reprendrai le mot de Nicolas Bouchaud, parce que pour vous, l'âme, c'est le corps, c'est l'âme. Et donc, il faut aller vous voir réfléchir et danser. C'est au Théâtre de Chaillot, c'est pendant quelques jours, et ça s'intitule The Complexity of Belonging. Et je rappelle que, aussi, une de vos pièces, donc Nobody, est donnée dans le cadre du Festival du Printemps des Comédiens à Montpellier.
Eh ben, en fait, quand c'est marrant parce que pendant toute une période de ma vie, mai 68, ça, c'était comme la Révolution française. Et en fait, c'est bizarre, c'est ce que je me dis. C'est pas que événements historiques comme je voyais les autres événements, genre un truc détaché, lointain. Qui était arrivé et qui avait changé un truc dans l'histoire, c'était vraiment rattaché comme un style de vie. C'était vraiment mai 68, je voyais les babes, c'était vraiment comme comme on dirait maintenant une façon de vivre en fait. J'avais l'impression que c'était plutôt un courant de pensée et qui était, comme on va dire, les surréalistes. Il y avait ceux qui avaient fait mai 68. Mais j'avais aucune image, quoi. Et c'est vraiment, j'avais l'impression que c'est presque, je limite cette année, ou même, enfin, ça fait vraiment pas longtemps, que je me suis dit, ah ouais, quel impact ça a maintenant? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'en plus, en ce moment, c'est quelque chose qui brasse énormément dans, notre génération, justement. Et du coup, le premier constat super évident, c'est de dire, ouais, le seul héritage que nous ont laissé ceux qu'on fait mai 68, comme si, en fait, notre génération, c'est une espèce de génération où on en veut quelque part, en fait, je crois, c'est une espèce de non-dit, où on en veut vachement un peu à la génération d'avant, mais sans la nommer, de se dire, vous nous avez vraiment laissé un terrain pourri, parce qu'en gros, vous avez fait votre révolution pour vous, mais sans penser, enfin, ce qui est un peu comme la révolution, je pense qu'elle est un peu à ce niveau-là, c'est sans avoir pensé un futur pour les autres, c'est-à-dire que c'est là où le premier... c'est peut-être un peu caricatural de dire ça, mais une espèce de boulimie à servir tout de suite, c'est-à-dire à faire quelque chose pour changer les choses sur le moment, tout de suite, maintenant, et avec une envie d'organiser les choses, enfin, dans une visée quand même d'avenir, mais pas qu'il soit dans le discours. C'est-à-dire de se dire, je sais pas, mais moi, comme ça, tout de suite, je me dis, ça me rappelle les slogans, genre, soyons réalistes, demandons l'impossible, ou, il est interdit d'interdire. Bon, voilà, ça, c'est tous les, quand je regarde juste ces slogans-là, je me dis, comment ça s'est appliqué maintenant? Et comment, à la rigueur, après, c'est les choses sur lesquelles il faudrait, maintenant, on a un espèce d'héritage à devoir avec ces slogans, parce qu'il est interdit d'interdire, il y a un mot pour dire ça, je me rappelle plus, c'est quelque chose de complet en soi. C'est comme si, avec ce genre de propos, c'est comme si tu posais un truc, tu dis c'est fini. À partir de ce moment-là où t'as dit ça, comment tu fais? Et soit, alors j'ai l'impression que ça enclenche sur deux trucs. C'est soit tu dois revenir à un espèce de truc, j'ai l'impression un peu qu'il se ressent, genre le malaise, enfin que sur lequel on va le jouer en disant ouais, fermeté, ouais, c'est-à-dire qu'en fait on est presque obligé de venir à un truc radical sens inverse, genre si, il faut interdire, si. Enfin, pour revenir sur cette espèce de dissolution des valeurs, on a l'impression qu'on se dit, ouais, l'héritage qu'on a, c'est de... Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ça, c'est une question, vous l'avez compris, c'est Claire Dumas. Vous ne l'avez peut-être pas compris, parce qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Quand on vous écoute à la radio, on ne sait pas si vous pensez vraiment ce que vous êtes en train de dire ou si vous dites un texte que vous avez écrit. Eh bien non, vous disiez un texte que vous aviez écrit. Et dans cette pièce qui est reprise au Théâtre de la Bastille, dans ce festival donc de collectifs qui commence donc à la Bastille, cette pièce qui s'intitule « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon ». Et nous, en tout cas moi, je suis très très vieille, je suis la plus vieille de l'Assemblée, de vous tous réunis. J'ai l'âge pour avoir fait 68, mais je m'aperçois que finalement, vous, vous êtes les petits-enfants de 68. Et que tout ce qu'on vous a laissé, pour reprendre les propos tenus tout à l'heure par Fak Richter, c'est une société qui se déconstruit, qui se décompose, qui est en ruine.
Moi, je ne pense pas que c'est ça que vous nous avez laissé. Je pense, vous, par exemple, et d'autres. Enfin, je pense que ce n'est pas le seul héritage qu'on a eu. Et je pense que ce texte foutoir que je viens de dire n'est pas notre position à nous, du collectif. C'est une position qui nous sert de prologue, de marche pour lancer le spectacle et poser une question et dire que peut-être, en effet, il y avait des belles choses à transmettre et qu'elles ne l'ont pas forcément été. Et qu'en effet, c'est plutôt un foutoir néolibéral. Mais ce n'est pas forcément votre faute. Après, on débat beaucoup de la position des gens qui se sont installés ou pas dans un confort. Mais en tout cas, l'idée, c'était plus de prendre mai 68 comme une sorte de mythe pour nous, comme une sorte de référence qu'on nous dit tout le temps indépassable à la moindre manifestation, pour parler de ce que c'est que vivre en société, qu'est-ce que c'est que s'engager, qu'est-ce que c'est que vivre ensemble, qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que le collectif, qu'est-ce que le groupe, qui sommes-nous. J'étais sensible à ce que disait Jean-François Civadier, nous qui avons très peu le temps de penser, enfin en tout cas on ne nous en donne pas tellement l'occasion, ce n'est pas très valorisé. On commence avec ce texte pour dire voilà, on est dans ce magma et dans cette masse et peut-être c'est le bordel et peut-être on n'a rien compris et peut-être on... Mais on pose ça comme préambule pour ensuite essayer d'arrêter cette phrase et de passer à des choses plus concrètes. Et
enfin, je passe la parole à mon camarade. Ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est qu'elle est très documentée, elle est argumentée à la fois intellectuellement, historiquement, théâtralement, et en même temps, c'est exactement comme Brecht dont on parlait tout à l'heure, elle nous permet de penser notre présent à partir d'un passé réexploré. En quoi la dimension du collectif vous a-t-elle donner de l'élan et de la vitalité pour construire cet objet qui est complexe.
Mélanie. Ça me faisait penser tout à l'heure en écoutant l'histoire de Galilée à une neuroscientifique, je sais pas comment dire, qui s'occupe du cerveau, qui s'appelle Catherine Vidal et qui travaille sur le cerveau des hommes et des femmes. Et surtout, elle fait un boulot, en fait, de casser les préjugés. Elle disait qu'elle passe autant de temps dans le laboratoire qu'avec les gens pour casser les idées qu'on a. Notamment sur la taille du cerveau des femmes qui ferait que c'est des quiches et les hommes seraient supérieurs. Bon. Et elle parle d'un truc que moi je trouve vachement important et que nous on expérimente, mais je pense aussi vous, je connais moins Fak Richter, mais dans l'équipe de Jean-François Civadier, c'est sûr quand on les voit jouer, quoi. C'est le fait que aucun savant fait Eureka. J'ai trouvé tout seul avec mon éprouvette que la science même, c'est une histoire de confrontation et c'est une histoire de couches de gens qui cherchent des choses et qui à un moment s'amoncellent et qui aussi par confrontation, parce qu'ils sont pas d'accord, font des hypothèses qui sont réfutées, et elle dit, mais en fait, ça nous abîme cette idée qu'il y aurait eu un moment, un savant tout seul devant son truc qui fait Eureka. Et en fait, ça, je pense, c'est faux. Scientifiquement, enfin dans le monde de la science, dans le monde de l'art et dans la société, quoi. Il y a eu un dévoiement, je pense, par rapport à 68, qui a valorisé l'individu. Et ça, c'était bien. Je pense que c'était nécessaire. C'était la suite des Lumières, de la Révolution française. Heureusement que vous avez fait ça pour nous. Mais cette espèce d'individualisme qui était positif, parce que nous, on vit là-dedans, hein, dans ce paradoxe-là de on est un collectif, donc on décide tout ensemble. Mais par contre, on est quand même des individus au sein de ce collectif qui sont pas laminés par le groupe, mais qui sont au contraire là pour être hyper eux-mêmes et chacun céder à cracher leur valda très personnel, quoi. Et pardon, j'ai mal parlé.
Ce que
je voulais dire, c'est qu'à mon avis, il y a eu quand même un rapport positif à l'individu qui a été perdu et qui a été récupéré notamment par le monde marchand, si ça veut dire quelque chose, et qui fait que maintenant on en est réduit à penser que on serait des monades, chacun serait son petit, enfin la vie de chacun serait comme ça indépendant de celle des autres, ce qui est complètement faux. Chaque fois qu'on agit, on impacte les autres, et même si on voudrait nous faire croire que c'est chacun sa maison, son couple, son enfant, son chien, nous, j'ai l'impression qu'au théâtre, on essaye encore de suspendre quelque chose, voilà, de prendre ce que vous disiez, hein, je crois qu'on est vraiment sur les mêmes tentative, qui des fois marche pas selon les soirs et les lieux, mais de voilà suspendre le flux de choses qui nous arrivent par les médias, ces fameux réseaux sociaux qui sont pas que mauvais aussi, mais des groupes sur Facebook, c'est pas des groupes de gens qui respirent ensemble dans un même lieu et qui s'échangent des paroles. Il y a quelque chose là quand même. C'est une des raisons qui fait que le théâtre a encore lieu d'être, même si le cinéma c'est génial, qu'on pourrait dire qu'on est battu par plein d'autres médias. Quand même, cette respiration commune, ce rire commun qu'on arrive à instaurer avec l'air dès le début, parce qu'on ressent tous cette sensation de... Ouais, mais parce qu'on croit au rire, justement pas le rire de la blague qui baisserait le niveau, mais au rire... On peut rire de cette situation de je sais pas comment dire, enfin là, c'est pas un mot... d'écrasement par tout ce qui nous vient. Et puis des fois, on se sent, on se dit, oh là là, mais il y a tellement de problèmes, on peut rien faire, quoi. Et en fait, par le théâtre, dans ces moments, ces petits moments de suspens, on tente de faire quelque chose.
Est-ce que l'avenir du théâtre, c'est le collectif, ou est-ce que c'est une affaire de génération? Parce que le théâtre de la Bastille, opportunément, donc, fait un banquet de collectifs. Ils sont de plus en plus nombreux en France, de plus en plus inventifs. On vient de le constater en vous écoutant, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a les Lucioles qui travaillent déjà depuis longtemps, les Chiens de Navarre qui sont maintenant aujourd'hui très reconnus. Collectif In Vitro, Raoul Collectif, Livre Collectif qu'on va découvrir à cette occasion. Est-ce que c'est une manière d'écriture du plateau, de travailler un texte à partir d'improvisation? Est-ce que ce sont les enjeux d'une modernité où la vidéo cohabite avec la danse et où le théâtre avec des personnages paraîtrait un peu lourdingue, figé, etc.? C'est une question que je pose à tous les trois. Et pour une fois, je vais la poser au garçon, le garçon qui n'a pas encore pris la parole, du groupe des trois.
C'est pour ça qu'on va le laisser parler.
Est-ce que le collectif, c'est l'avenir du théâtre? Nous, personnellement, au sein de l'Avantage du Doute, on a décidé de redistribuer toutes les responsabilités, même pas seulement au plateau, mais aussi dans la manière de communiquer, de produire, d'organiser les tournées. Je disais tout à l'heure, par exemple, quand on nous a proposé de venir ici, on a insisté pour venir le plus nombreux possible. Parce que, voilà, sinon on se repose après sur certaines facilités qu'ont les uns ou les autres. Par exemple, quand t'es dans un groupe, il y en a un qui est plus à l'aise avec la caméra, bah, y a une télé à faire, donc c'est lui qui va y aller. Il y en a un qui a fait, je sais pas, une grande école, alors il va être plus à l'aise à l'écrit, c'est lui qui va se taper les dossiers. Et puis petit à petit, on s'installe un peu dans une sorte de confort et on devient un peu des acteurs professionnels où... voilà, on fait son job et puis on cesse de prendre au sérieux cette utopie qu'est le collectif, qui est une bataille en fait quotidienne.
Il vous reste 30 secondes.
Alors,
oui, c'est l'avenir du théâtre.
Non, mais le théâtre, c'est un art éminemment collectif de toute façon. Ouais. Après, en tout cas, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense que. Notamment, effectivement, dans la troupe du Brecht, je pense que c'est un collectif d'acteurs emmené par un chef de troupe, on va dire, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est éminemment collectif. Après, il y a des metteurs en scène absolument tyranniques qui n'ont pas le sens du collectif, comme il y a des êtres humains qui n'ont pas le sens de l'écoute de l'autre. Mais dans ce qui réunit les gens des collectifs là, au Théâtre de la Bastille, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'écriture au plateau pour certains, l'improvisation pour d'autres. Collectif, de fait, le Raoul Collectif, par exemple, ils ont dit, ah ben nous, on est un collectif, on s'en est rendu compte parce qu'on nous l'a dit, mais en fait, eux, ils travaillent comme ça tout le temps. Et là, ils interrogent justement cette occasion, qu'est-ce que c'est qu'être un collectif? Après, les filles du Livre Collectif, c'est vraiment hérité de Tejestan. Et puis, In Vitro, je pense que c'est le côté plan-séquence tous ensemble qui fait d'eux l'aspect collectif. Et les Lucioles, bah, eux, ils disent une société de gens qui se croisent, qui s'aident, qui s'entraident et qui s'aident à monter des projets sans s'obliger à travailler ensemble nécessairement. Donc chacun a différentes raisons de se nommer collectif.
Merci beaucoup et vive l'Avantage du Doute et vive le théâtre. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour sa programmation musicale. La technique, c'était Vincent Godard. Périne Malinge a préparé cette émission. Marie-Hélène Fauquet l'a réalisée. Et après le journal de minuit, vous retrouverez Nathalie Piollet pour son émission L'album de minuit. Et j'ai oublié de remercier notre traducteur simultané, Bernard Mangiante, qui a traduit donc les propos de Falk Richter. Merci à vous tous.